Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans toutes les mobilisations avec du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée à quatre oreilles par Céline Hila et Jérôme Chelus, assistée de Lucille Valérie et avec Patrick Henry à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, des citoyens dans la rue et d'autres qui pleurent, mais pas uniquement pour qui vous pensez. Les uns participent à la grande mobilisation pour la paix au Pays Basque et ses prisonniers, pendant que d'autres pleurent aussi la mort de leur usine d'Argenteuil, épilogue d'une délocalisation.
Voilà où on en est, c'est-à-dire le droit de pouvoir revendiquer un réel processus de paix pour notre territoire.
J'étais victime du plombier polonais.
On savait que ça devait arriver un jour. C'est un jour triste aujourd'hui.
Ouais.
Comme un bruit qui court et qui revêt ses habits noirs aujourd'hui. Oui, c'est un jour triste, un jour de deuil, car c'est encore un petit bout de notre histoire qui disparaît. Une page qui se tourne, mais heureusement cette fois, cela ne se passe pas dans l'indifférence générale.
Et écoutez, j'espère que l'on puisse entendre de beaux témoignages de la part d'autorités importantes de notre pays. On m'a dit qu'il y avait des écrans géants prévus à l'extérieur pour permettre aux nombreux fidèles de suivre la cérémonie qui se déroulera à l'intérieur.
Ah non, ça c'est le curé qui célèbre l'office pour la mort de Johnny.
Ah zut, on a dû se tromper de son. Bon, parce que pendant que les uns disent au revoir à leur idole, les autres disent au revoir à leur boulot. Oui, c'est un jour triste pour les ouvriers de Semperit, cette usine de fabrication de tapis roulants. Et donc Guy, tu suis le combat depuis la rentrée. Pas d'écran des géants à Argenteuil pour retransmettre la cérémonie de fermeture de l'usine, certes. Mais peut-être y avait-il quelques représentants de l'État venus rendre hommage à ces ouvriers.
Non, pas nombreux, non. Mais si on revient sur leurs histoires, c'est pas pour faire de la concurrence émotionnelle. C'est juste que leur histoire microscopique raconte quelque chose sur notre époque. Alors on a envie d'être à leur côté lundi pour le dernier jour d'usine avant délocalisation.
Et si une page se tourne pour les ouvriers de Semperit avec la mort de leur usine, pour les artisans de la paix au Pays Basque qui se mobilisent à Paris aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Après le désarmement d'ETA le 8 avril, c'est l'espoir d'une paix juste et durable. Mais il faut maintenant s'occuper du sort des prisonniers, Antoine.
Oui, plus d'une dizaine de milliers d'artisans de la paix sont venus, pour beaucoup directement en train depuis le Pays Basque, et se sont rassemblés à Montparnasse pour que la question de l'éloignement sur le territoire des prisonniers politiques soit à l'ordre du jour dans la résolution du conflit armé qui meurtrit le Pays Basque depuis plus de 40 ans. Le processus de paix a déjà pris un tournant décisif le 8 avril dernier à Bayonne. Nous y étions. La société civile, au travers des artisans de la paix, avait obtenu le désarmement d'ETA, une journée historique. C'est donc la suite qui se joue aujourd'hui, l'étape suivante pour que la paix soit juste et durable. Alors devant la gare Montparnasse, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas venus en train sont arrivés à pied, après un grand parcours et une grande marche pour rendre visite à la soixantaine de prisonniers basques qui sont détenus en France, dans 20 prisons différentes, souvent très loin des leurs. C'est la double peine infligée aux familles des détenus. On retrouve les marcheurs sur l'avant-dernière étape à Réau, du côté de Savigny-le-Temple, où l'eurodéputé José Bové, le sénateur Max Brisson et le député Vincent Bru ont rencontré derrière les barreaux les représentants du collectif des prisonniers basques.
Comme un bruit qui court, Semperit, épilogue d'une délocalisation et Pays Basque, les prisonniers à la maison, c'est jusque 17h sur France Inter et c'est parti.
Le procureur de la République de Bayonne a reçu ce
comme
matin des informations portant sur l'emplacement de stocks d'armes d'ETA.
Charles Perry.
Cette décision a été prise de manière unilatérale par ETA.
Antoine Chao.
Nous avons soif de paix.
Guy Vonctil.
Nous demandons leur rapprochement et regroupement. La libération des prisonniers en fin de peine.
Comme un bruit qui court.
Je n'avais pas encore mesuré la réalité alors.
C'est un premier pas urgent vers une solution globale et définitive pour ne pas refermer la page d'espoir ouverte par le désarmement de l'organisation ETA.
ETA est un presso.
Aujourd'hui, ce processus est un processus irréversible.
Et nous espérons que les quelques petits signes qui ont été donnés seront confortés par d'autres mesures en faveur des détenus pour qu'enfin on arrive à une paix durable au Pays Basque.
Mais le grand risque aujourd'hui, ce sont les risques d'extradition à la fin des peines vers l'Espagne.
Comme un bruit qui court.
Je pense que là, nous progressons au Pays Basque. Ils ont parlé des souffrances des victimes. C'est un acte important.
Au nom de tout le processus qui a été engagé,
nous avons soif de paix.
Hashtag comme un bruit.
Savigny-le-Temple, Nandy.
centre pénitentiaire sud-francilien. On arrive. Il faut passer le restaurant La Mare au Diable. Et là, voilà, on voit apparaître le Mirador. Centre pénitentiaire sud-francilien. Domaine privé sous télésurveillance. Accès réglementé. Ministère de la Justice et des Libertés. Traduit.
Prisonnier basque à la maison.
Les marcheurs arrivent, c'est ça?
Ça y est, les marcheurs sont là, donc 150 personnes, voilà. Donc ils ont passé une nuit assez courte, hein. Ils ont passé une nuit assez courte, puisque ben, on a fait une assemblée générale hier soir, ils sont arrivés vers 9h du soir. Donc avant de casser la croûte, on a fait une assemblée générale pour préparer ces 3 jours de marche. Et ben, oui, ils ont dormi ouais, 5-6 heures, mais voilà, ils sont en pleine forme. Là, voilà.
Beaucoup de jeunes, hein?
Oui. C'est vrai, il y a tous les âges, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. C'est quand même assez réconfortant. La relève est assurée. Voilà.
Tu te présentes?
Oui, Juan Salazar Fagora, donc militant basque sur Paris et sur Hendaye depuis que j'ai pris ma retraite il y a un an.
Et là, en ce moment, donc, y a une délégation qui a été reçue.
Absolument, il y a une délégation d'élus qui a été reçue. Il y a
au centre pénitentiaire, voilà, à Sud-Francilien, là, à
Réau. Absolument, il y a José Bové aussi qui est parmi eux. Et donc une délégation d'élus, de parlementaires, de sénateurs. Ils sont en train de rencontrer Miquel Ansa et Marisol Iparaguirre, qui sont emprisonnés ici, qui sont les deux porte-parole. Ils font partie des porte-parole de l'organisation des prisonniers. Donc ils sont en train de les rencontrer pendant une demi-heure avant de ressortir pour une conférence de presse qui aura lieu d'ici quelques minutes avant qu'on démarre cette marche jusqu'à Fleury-Mérogis.
Rejoignez-nous samedi 9 décembre à 11h30 à la gare Montparnasse à Paris. Nous serons des milliers à marcher aux côtés de personnalités de toute sensibilité. Ensemble, pour une paix juste et durable au Pays Basque et ailleurs.
Alors aujourd'hui, c'est Réau. Là, vous êtes arrivé avec la camionnette. Pour la paix, toutes et tous à Paris.
Alors, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à Mont-de-Marsan. On est accompagné d'élus et de représentants de la société civile basque pour commencer ce Tour de France. Alors, on est passé par Toulouse, par Marseille, par Lyon, par Poitiers, par Rennes. Et donc, la dernière étape, c'était à Lille. Et on est arrivé à Paris hier soir, directement de Lille, après être passé par la prison de Clairvaux. Cette expérience nous a permis aussi de rencontrer différentes familles qui voyagent énormément pour pouvoir visiter leurs proches. Et c'est une situation très compliquée. On espère en tout cas qu'il y aura un changement politique qui permettra le rapprochement et l'application du droit aux prisonniers politiques basques dans le cadre du processus de paix. C'est vraiment une problématique qui concerne mon pays, le Pays basque. Et en tant que jeune, il me semblait très très important de réussir avec...
En tant que jeune, tu dis ?
En tant que jeune, c'est très important, oui. C'est très important de réussir à tous ensemble tourner une page. Page violente de notre pays et ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre de réconciliation, de paix, où tous ensemble on pourra réussir à développer différents projets politiques. Et moi, en tant que jeune, je sentais une responsabilité. D'autres générations ont eu beaucoup de luttes à mener et la nôtre, ça sera d'arriver à une paix juste et durable et c'est très important de s'y impliquer. Je m'appelle Unai Arkaus, je suis membre du collectif Bagoas. Bagoas qui est un collectif qui regroupe 26 acteurs de la société civile basque qui œuvrent pour une amélioration de la situation d'incarcération des prisonniers basques dans le cadre du processus de paix et de la feuille de route proposée lors de la conférence d'AIET en 2011.
Lundi 17 octobre 2011, Donosti se tient la conférence internationale de paix d'AIET. On y déclare la paix au Pays basque. La déclaration du lundi 17 octobre est dite « Déclaration d'AIET », déclaration intégrale sur la paix au Pays Basque, déclaration présentée par l'ex-secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de la paix Kofi Annan, l'Irlandais Gerry Adams, l'ex-premier ministre irlandais, l'ex-ministre français de l'Intérieur Pierre Jox, l'ex-première ministre norvégienne, l'ex-chef de cabinet de Tony Blair. Nous sommes venus au Pays Basque aujourd'hui car nous croyons qu'il est temps et aussi qu'il est possible de mettre un terme à la dernière confrontation armée d'Europe.
Et
C'est les prisonniers, ils doivent rentrer chez eux, à la maison, chez nous. Voilà, mot à mot à la maison. Et aussi les réfugiés. Les réfugiés parce qu'il y a des prisonniers qui sont en prison pour leur action politique et aussi des réfugiés qui sont à travers le monde et qui n'ont pas, qui peuvent plus rentrer chez eux. Et puis bon, là maintenant, c'est de l'ordre de quand même plus de 300 personnes si le chiffre n'a pas été réactualisé. Maintenant, c'est le temps de l'apaisement, de la réconciliation et surtout pas le temps de l'humiliation. Voilà. Alors maintenant, il faut reposer les enjeux et faire de la politique, parce qu'évidemment, il y a de la politique derrière, mais faire de la politique de façon apaisée.
Alors, il y a une centaine, une grosse centaine de marcheurs devant la prison, le centre pénitentiaire sud-francilien. Ils ont tous des chasubles jaunes avec marqué « Baquet Gilea, artisan de la paix » et des drapeaux et des banderoles « Paix en Pays Basque, maintenant les prisonniers ».
Alors je m'appelle Tide Roset, je suis enseignante, j'habite l'île d'Oléron. Je connais bien la situation de la famille des prisonniers basques et surtout des enfants, puisque j'ai accompagné un petit garçon pendant 12 ans, à aller voir ses parents régulièrement dans toutes les prisons de France et de Navarre. Je connais aussi les difficultés des parents, des vieux parents à venir voir leurs enfants en prison et l'impossibilité des prisonniers à aller à l'enterrement de leurs propres parents. C'est quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose, comment vous expliquer, de difficile quand vous êtes avec un enfant, de ne pas pouvoir rentrer parce que c'est son anniversaire et que le papa ou la maman est un détenu signalé dangereux et qu'on ne peut pas fêter l'anniversaire avec le petit garçon de 7 ans. Je ne vois pas en quoi cela apporte quelque chose de plus à la punition des personnes emprisonnées.
Parce que les détenus, donc les prisonniers basques, sont signalés dangereux, c'est ça?
Tout
le problème.
À fait. Et donc,
c'est un régime d'exception. C'est
un
ça
régime d'exception qui, dans un premier temps, peut empêcher les personnes d'avoir, dans des situations normales, le plus normal possible, leur famille, qui va empêcher aussi les enfants à rencontrer, dans le cadre d'un parloir enfant-parent, sans regard extérieur, sa mère et son père. Et puis surtout, ça empêche les personnes emprisonnées de suivre des formations, de suivre des projets culturels, ce que demande la prison française dans le cadre d'une réinsertion future. Je ne suis pas basque, moi je suis quelqu'un qui est en solidarité avec les droits de l'enfant, quelle que soit la situation de leur famille, mais je ne vois pas en quoi cela apporte quelque chose de plus que de punir, de faire une surpunition aléatoire. En fonction des prisons où se trouvent les personnes, la surpunition va dépendre de la loi interne, des règlements internes, et c'est insupportable. À partir du moment où les personnes ont été jugées, elles doivent suivre la loi commune. Point final.
Alors là, on est devant le centre pénitentiaire sud-francilien. Alors, qui est enfermé ici?
Alors moi, je ne connais pas tout le monde. Je connais Madame Iparaguirre, Marisol Iparaguirre. Je connais Monsieur Michel Albizu. Et je viens les voir depuis leur arrestation et leur incarcération depuis 12 ans. Et j'ai fait le tour de France des prisons, toute seule ou avec leur fils, qui devait manquer 2 jours d'école pour venir voir les parents, qui devait attendre des heures avant de pouvoir rentrer, pour des parloirs qui ne duraient parfois qu'une demi-heure, ou des parloirs hachés comme à Fresnes. Quand vous faites double parloir, vous devez ressortir au bout de le premier parloir et revenir. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et ce qui est important à savoir, c'est que je vais aussi également à l'île de Ré rencontrer un prisonnier basque. Et je me rends compte que ce que les prisonniers basques soulèvent collectivement, c'est valable pour tous les prisonniers. Moi, je vois des familles qui viennent de Guyane, qui viennent des îles, et pour voir leur enfant, c'est insupportable. La situation de l'éloignement familial est une surpeine qu'on rajoute à tous les emprisonnés de France.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que ce train d'accueil est destiné
destination de Melun par Combs-la-Ville. Train Zaco à destination de Melun par Combs-la-Ville. Merci de votre attention.
Alors on a décidé de faire plusieurs étapes qui nous permettaient de s'arrêter dans une grande ville, faire des travaux de sensibilisation et d'information pour les citoyens de cette ville, et ensuite rendre visite aux différentes prisons qui sont situées autour de ces grosses villes.
Presque 60 ans après sa fondation et des années de violence ayant coûté la vie à plus de 800 personnes, l'ETA s'engage à un désarmement total ce samedi 8 avril.
L'ETA a annoncé hier la fin définitive de 50 ans de lutte armée pour l'établissement d'un État basque indépendant.
Encore considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, avait déjà renoncé en octobre 2011 à la lutte armée pour l'indépendance du Pays basque et de la Navarre.
L'adieu aux armes de l'ETA qui, après 4 décennies de lutte armée, renonce à la violence. À ses origines antifranquistes, l'organisation nationaliste basque dit vouloir dépasser la confrontation armée et privilégier l'ouverture et le dialogue.
Indépendantiste.
Liberté pour les artisans de la paix. C'est derrière cette banderole qu'ont défilé entre 3000 et 5000 manifestants dans les rues de Bayonne, en soutien aux 5 personnes interpellées la nuit dernière.
La réponse aux propos du ministre de l'Intérieur et à l'opération de police menée hier en Pays Basque, la voici. 4000 personnes dans les rues de Bayonne cet après-midi. Tous demandent la libération des personnes interpellées.
Lorsqu'il y a incurie des États, eh bien c'est la société civile qui prend le relais.
Nous devons continuer à avancer sur le chemin de la paix. Rejoignez-nous samedi 9 décembre à 11h30 à la gare Montparnasse à Paris. Nous serons des milliers à marcher aux côtés de personnalités de toute sensibilité et d'artistes comme Moussa Hakim de Zebda ou encore Fermin Muguruza et bien d'autres musiciens du Pays Basque. Toutes et tous, ensemble, pour une paix juste et durable au Pays Basque et ailleurs.
Alors Tchetch, c'est une nouvelle page qui est en train de se tourner là aujourd'hui.
Mais en tout cas, il y a une page qui a commencé à se tourner avec le désarmement d'État et on essaye de tout faire pour qu'elle ne se referme pas et qu'un drame, un nouveau drame comme la mort d'un prisonnier en prison ou des accidents pouvant causer la mort ou autre chose pour les familles qui doivent les faire des milliers de kilomètres pour les visiter, ne vienne pas refermer cette page d'espoir qui a été ouverte par la société civile du Pays Basque avec le désarmement d'État. Et maintenant, nous, ce qu'on est venu dire à Paris, c'est que le gouvernement français doit lui aussi apporter sa contribution, mettre fin à cette politique, ce régime d'exception qui est en vigueur depuis 30 ans par rapport aux prisonniers basques et à leurs familles, et que lui aussi contribue à l'apaisement, la normalisation et de la situation, et puis à alimenter l'espoir et pas le désespoir, parce que c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on peut construire un avenir de paix globale et durable pour tout le monde. Il y a des prisonniers qui sont en tôle depuis 28 ans, qui ont 65 ans, on leur refuse pour la cinquième fois leur demande de liberté conditionnelle alors qu'ils remplissent toutes les conditions pour y avoir accès. Et aujourd'hui, en Espagne, avec les nouvelles lois et les peines incompressibles de 40 ans, si on ne trouve pas des solutions politiques, les derniers prisonniers politiques basques sortiront en 2057. Il n'y a personne aujourd'hui dans la société du Pays Basque qui s'imagine qu'on pourra construire une paix durable et un nouveau vivre ensemble, une réconciliation de notre société, avec une telle perspective. Évidemment qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions politiques, d'autant plus que par rapport aux GAL, c'est-à-dire cette milice policière créée par le gouvernement espagnol et qui a tué 26 morts en Pays Basque côté français, les responsables du GAL, le général Galindo et autres, ont été condamnés à 70-75 années de prison. Ils ont été libérés au bout de 3-4 ans. On ne peut pas accepter deux poids, deux mesures. Il faut aujourd'hui, et j'en appelle là non pas à la bonté ou à l'humanité des gouvernants, mais à leur intelligence politique, si effectivement ils ont également la volonté que s'établisse une paix irréversible en Pays Basque, il faut qu'ils gèrent ça en pensant à l'avenir et non pas en étant alimentés par des logiques de vengeance et une vision liée au passé.
Comme un bruit qui court.
On attend de comme dans tous les pays qu'il y a un conflit politique, que ça existe une justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'on crée une appareil de justice pour la résolution totale du conflit.
C'est assez original. Je n'allais pas se dire au niveau mondial.
Serge Portelli, magistrat.
De voir la société civile, c'est-à-dire le peuple basque, parce qu'il y a vraiment un peuple basque, qui prend les choses en main et qui finalement oblige les pouvoirs publics, d'un côté et de l'autre des Pyrénées, à accepter cette situation et puis à aller dans un processus de paix dont personne ne voulait, sauf le peuple. C'est vraiment quelque chose de très original, enfin, dans ce qu'on appelle d'habitude la justice transitionnelle, c'est-à-dire le passage d'une situation de conflit ou de guerre ou de crise forte à une situation de paix. Il y a différentes façons de procéder. Mais là, vraiment, au Pays Basque, on a quelque chose de tout à fait nouveau et qui est vraiment très réconfortant d'un point de vue démocratique. C'est que ce sont les gens, enfin, je veux dire les gens, oui, les gens. La société civile, c'est-à-dire le peuple basque, parce qu'il y a vraiment un peuple basque, qui vraiment dépasse les oppositions politiques. Il y a des gens de droite, de gauche, du centre, dans telle ou telle religion, des gens athées, des gens... Enfin bon, c'est vraiment d'une immense variété, et c'est tous ces gens qui se réunissent, qui oublient leurs différences, pour l'instant. Et puis qu'ils disent, nous, on en a marre. Enfin, vraiment, on n'en peut plus. On veut la paix, quoi. Et ça, c'est... Bon, c'est pour ça que je m'engage là-dedans. Enfin, je veux dire, je ne connais pas de plus belle action, enfin, d'œuvre plus extraordinaire, enfin, que de contribuer à la paix. Moi, je suis magistrat. Mon boulot, c'est d'assurer la paix publique d'une certaine façon. Et contribuer à la paix au Pays Basque, c'est quasiment le summum de ce que je peux faire.
Je vous demande de brandir. De brandir ce signe de l'artisan de la paix. Davida, Bakir, il est. Nous sommes toutes et tous les artisans de la paix. Et c'est ça, on a un signe, et ta grande idée, un signe.
La réussite de cette journée, elle tient surtout parce que vous êtes tous là.
Donc les problèmes du processus de paix sont très nombreux, très très nombreux. Il y a les revendications, les exigences des victimes des côtés, d'un côté et de l'autre. Il y a le sort des prisonniers. Et il y a beaucoup d'autres choses. La voix des victimes doit être entendue, mais en même temps, ceux qui ont été condamnés doivent pouvoir revenir dans une vie normale, être resocialisés, retrouver une vie ordinaire. Voilà. La justice transitionnelle, c'est précisément ce qui existe maintenant depuis 30 à 40 ans dans plein de pays du monde entier, dans tous les continents, où on essaye de trouver des processus, de nouvelles règles. Et on ne peut pas faire autrement d'ailleurs, parce que vous pouvez pas, il n'y a pas un code de la justice transitionnelle où on se dit, on regarde, on va appliquer ça au Pays Basque ou à la Colombie ou ailleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois, c'est des peuples particuliers, une histoire particulière, des violences particulières, des victimes particulières. Donc, à chaque fois, il faut que l'homme fasse preuve d'intelligence, d'imagination, d'inventivité. Voilà. Et c'est vrai que l'homme, il sait faire. Je veux dire, mais généralement, c'est en sens inverse. Je veux dire, l'homme est d'une prodigieuse imagination, j'étudie beaucoup ce problème-là, pour torturer, pour faire mal, pour faire hurler, faire crier, pour blesser, voilà. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'un jour, l'homme se mette, il le fait encore un petit peu quand même, qui mette à peu près la même énergie, la même force, la même imagination, pour faire la paix. Voilà. Donc, de temps en temps, on y arrive. Au Pays Basque, on peut y arriver. En Colombie, on est en train d'y arriver. Et c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Donc, pour aller vers la paix, il faut pas simplement de la générosité, parfois, je n'ai pas ce que dire, de la folie, quoi.
C'est...
Il faut des gens un peu fous qui prennent des risques. De dire, voilà, je veux la paix, je suis un homme, je suis une femme, mais je prends ce risque-là, qui est vraiment le risque de l'humanité. Quoi. Qu'est-ce que vous avez de plus beau qu'un peuple qui marche vers la paix ?
Moi, je suis Anna Espinosa, présidente du mouvement civil Bakibidea, le chemin de la paix. Un mouvement civil qui a vu le jour au lendemain d'Ayété en 2012. On n'était que des personnes issues d'associations, syndicats ou groupes politiques dans un premier temps. Et quand la déclaration a eu lieu à Ayété, donc le 17 octobre, on a décidé de répondre au point numéro 4 de la déclaration d'Ayété qui était et qui préconisait en fait d'instaurer un dialogue inclusif entre institutions, élus, syndicats et sociétés civiles pour trouver et résoudre les nœuds de ce conflit. Et nous, c'est une phrase qui nous avait vachement parlé à l'époque. Et je crois que pour nous, ça avait été de nous dire, mais en fait, une société civile, elle a le droit. Et elle a le devoir, en fait, de s'approprier ce processus de paix et puis et d'y mettre du contenu. Puisqu'en fin de compte, on disait à terme, se vivre ensemble, c'est qui ? C'est nous. Donc en fait, ce processus, il doit répondre à ce qu'on veut, nous. Puisque se vivre ensemble, il faut qu'on l'établisse, nous. Autrement, il n'y aura pas de vivre ensemble. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est lancé dans ce pari-là, qu'on a arrêté de se considérer représentant de nos orgas, et qu'on a franchi le pas de se dire, Moi qui suis de la CFDT ou moi de la CGT, mais quand je suis à Bakébidia, je suis Bakébidia. Et voilà, et on a fait un joli petit chemin ces 6 dernières années.
Voie 3, gare Montparnasse. Il y a un train qui arrive avec des camarades basques, hein, c'est ça,
oui,
qui arrive d'Andaï, là. Andaï, Saint-Jean-de-Luz, c'est ça?
En soutien justement à toute la démarche qui est entreprise en Pays Basque pour que le processus de paix puisse se mettre en marche. Et notamment pour venir réclamer le rapprochement des prisonniers politiques basques et la libération des prisonniers qui sont malades et des prisonniers politiques basques aussi qui sont déjà libérables dans le cadre de la libération conditionnelle pour qu'une paix juste et définitive puisse avoir lieu en Pays Basque.
Et toi, Zigor, tu es directement concerné par cette histoire d'éloignement des prisonniers ?
Ben oui, malheureusement. Malheureusement, puisque j'ai deux frères qui sont en prison. L'un à Arles, donc à près de 700 km du Pays Basque. Et l'autre frère, qui s'appelle Eneko, qui lui est en prison donc en Galice, au-dessus du Portugal. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis maintenant de nombreuses années, le mouvement indépendantiste basque voulait mettre en place un processus de paix, de résolution démocratique du conflit. Et par la suite, normalement, la mise en place d'une justice transitionnelle avec aussi une reconnaissance de toutes les victimes qu'il y a eu des deux côtés du conflit, quoi.
Voilà. Des deux côtés.
Voilà, des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair aussi dans le mouvement indépendantiste, hein. La souffrance, elle a existé, elle est reconnue. Le mouvement indépendantiste a reconnu aussi la souffrance qu'elle a pu faire subir à un moment donné à l'autre partie, la partie opposée. Mais c'est vrai que les souffrances, elles sont... Ils ont toujours été des deux côtés et c'est là où il va falloir maintenant franchir aussi un pas, quoi.
Et pour aller jusqu'où alors ?
Ce jusqu'où-là, c'est quelque chose qui va devoir être débattu, décidé par toutes les sensibilités politiques du Pays Basque sur qu'est-ce qu'on fait du devenir du Pays Basque et avec le soutien et l'encouragement des deux États, la France et l'Espagne. Déjà, si la France s'engage sur ça, ça va être très important. Et c'est justement ce qu'on vient aussi demander à Paris.
Alors Antoine, aujourd'hui c'était ma première leçon de basque et là ça veut dire les prisonniers à la maison.
Oui, c'est bien ça Charlotte, bravo. À la maison et dans un premier temps à la prison de Montmarsan peut-être, c'est déjà ça pour les familles. Merci aux marcheurs, aux magistrats Serge Portelli, aux artisans de la paix, Anaïs Funosa, Jean-Noël Etcheverry, dit Tchetch et à Zigor aussi. Alors la mobilisation, la paix en Pays Basque, maintenant les prisonniers est terminée, il y avait beaucoup de monde, tout s'est bien passé dans le calme, l'espoir et la bonne ambiance. Un prochain rendez-vous est pris le 12 janvier à Bilbao. Pour la paix, on ne lâche rien. À Gouges, au revoir, comme on dit là-bas. Deuxième leçon de basque, Charlotte.
Et la troisième leçon sera à suivre. En attendant, si une lueur d'espoir s'allume pour les prisonniers basques, pour les ouvriers de Saint-Périt, cette usine à Argenteuil, c'est plutôt un triste épilogue, Give.
Oui, nous les avions croisés dans les mobilisations de la rentrée sociale, début septembre, avec leurs t-shirts, non au licenciement boursier, alors qu'ils tentaient de battre leur appel contre la délocalisation de leur usine en Pologne. Eux, ce sont les 64 ouvriers sans péril de la dernière usine de bande transporteuse, ex-Kléber, basée à Argenteuil depuis des lustres. Alors, nous les avons suivis pendant qu'ils se battaient à leur échelle microscopique contre un des maux de notre économie financiarisée, l'écart toujours plus grand de la répartition des richesses entre le travail et le capital. Car s'ils ferment, eux, c'est pas qu'il n'y a plus de boulot, c'est juste que le groupe autrichien qui réalise des profits souhaite augmenter les dividendes versés à ses actionnaires. 15 millions de plus-value quand même en 2016. Alors, nous étions là aussi le 28 septembre quand ils ont occupé leur usine pour forcer le patron à négocier. Et ce lundi 4 décembre, comme un bruit qui court, a voulu être là pour l'épilogue. Le dernier jour de l'usine, la fin d'un monde et d'un collectif de destin, renvoyés chacun à leur propre sort d'individu entreprise dans le grand bain du marché flexibilisé.
Leur usine part en Pologne. En France, une heure de travail coûte 38 euros à une entreprise, alors qu'en Pologne, c'est 5 fois moins.
Comment voulez-vous rivaliser entre les Polonais et nous? Ici, le petit salaire, c'est peut-être 1500 euros. Là-bas, le gros salaire, c'est 700 euros. On ne peut pas virer les gens comme ça. C'est pas possible. C'est pas des Kleenex.
Et là, ça y est, nous, on est sacrifiés sur l'autel de la finance. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose.
Délocalisation.
J'ai été victime du plombier polonais. serial killer du travail.
Je vous paye un café.
Avec plaisir. Ouais. On s'est donné à fond, on a escrinté notre santé, on est usé.
On casse l'art du travail, la façon de travailler, le savoir-faire. Puis ils veulent tout ubériser, ils veulent que les actionnaires vivent bien. Je ne sais pas combien de gens ils devront tuer pour faire du bénéfice, mais grand bien leur fasse, quoi.
Ils nettoient et on dégraisse, comme on dit.
C'est comme ça.
Les actionnaires sont toujours de plus en plus gourmands.
Non, les carottes sont cuites, la messe est dite et les jeux sont faits. C'est... Enfin, il faut qu'ils sachent que pour obtenir ça, ils tuent des gens. Ça suffit maintenant.
Ah merde, vous avez perdu votre pièce sous la machine à café. Là, vous jouez à quatre pattes.
C'est son patron, il prie.
Il prie sans périte à quatre pattes. C'est bon, vous avez retrouvé la pièce?
Ouais, merci. Ça, c'est des bobines de métal, c'est des câbles. Parce qu'on fait des bandes transporteuses avec du câble. C'est vraiment solide, c'est pour les grosses industries. Donc on avait un vrai savoir-faire, on était les seuls en France à faire ça. Ils nous l'ont piqué vite fait, bien fait.
Parce que vous, les propriétaires de cette usine, les Autrichiens, vous les avez jamais vus?
Jamais. Ils viennent pas, en fait. Non, ils ont pas besoin. Les mecs, ils ont plus d'âme. Comment tu vas sacrifier des gens avec qui t'as travaillé? Je comprends pas.
On n'est plus dans l'humain, là. T'es de la viande. Excusez-moi, c'était mon vestiaire, c'est un cercueil, quelque part. Vous comprenez? Ah ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Tu vas crever au taf, et même quand tu fais, c'est pas assez. Attends, on a tout donné. Tu veux quoi de plus?
Activité au point mort, machines à l'arrêt, entrée bouclée à Argenteuil. Les salariés de l'usine Sainte-Périte se relaient
un
pour
lit
dormir sur place.
À l'entrée de l'usine, une table pour manger. Les salariés ont installé leur campement. La fabrication de bandes transporteuses de caoutchouc partait en Pologne.
En bref.
Et une semaine après, le 28 septembre, les salariés occupent l'usine.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est notre directeur.
Ah, le patron, là?
Oui.
Il quitte l'usine, là?
Oui, c'est le directeur qui sort, là.
C'est pour ça que tous les salariés qui étaient sur le site, là, sont sortis pour l'accompagner jusqu'à sa voiture.
Exactement, oui. Il a plus le droit de rentrer, maintenant.
Il a vu ça un peu? Il est super confiant, là. Il était avec nous au début et maintenant, il nous a lâchés. On était tous dans le même bateau, il nous a même dit « Rassurez vos familles, vous inquiétez pas. » Et voilà un directeur qui nous lâche maintenant. Et ouais, c'est la fin, c'est la fin. Et lui, il repart tranquille devant nous. Super, super. Quel patron alors? Excellent, excellent. Un super patron qu'on a.
Vous êtes bien sur le répondeur de l'Europe. Nous sommes actuellement occupés à rédiger votre licenciement. Veuillez rappeler dans 100 ans, 3 guerres et 16 cracks boursiers. Bonne chance. J'ai une bombe à retardement qui en a marre d'être retardée, qui voudrait crever l'écran et vous présenter les JT. Simplement dire la vérité. Tadadam, mesdames et messieurs, bonsoir. Le capitalisme a tué l'existence en la privant de son humanité. Il est urgent d'en changer. Seuls quelques bandits y trouvent leur compte en nous réglant le nôtre.
Allez, bye, ciao.
Ouais, merci, hein. Bonne soirée.
Bonne nuit à l'usine.
Lundi 4 décembre.
C'est la troisième fois qu'on vient dans cette petite rue des Chartiers, juste derrière la gare RER d'Argenteuil. Cette petite rue des Chartiers où je vois toujours le drapeau rouge de l'usine Semperit en grève qui claque au vent. La première fois, c'était en septembre. C'était le choc à l'annonce par l'investisseur autrichien de la fermeture de l'usine et de sa délocalisation en Pologne. La deuxième fois qu'on est venu, c'était la colère. L'occupation de cette usine par ses ouvriers, de nuit comme de jour, pour essayer d'empêcher la fermeture et garantir un peu moins que l'aumône qui était proposée par le propriétaire. Et voilà, maintenant c'est la troisième fois qu'on vient. Et c'est l'épilogue. C'est le dernier jour. C'est la vraie fermeture de l'usine.
Bonjour, ça va bien?
Bah ouais. C'est la dernière, hein?
Dernier jour.
Ah oui. Voilà. On nous a confirmé ça dans la matinée là. C'est le délégué syndical qui m'a confirmé par l'intermédiaire du directeur général que c'était le dernier jour qu'on venait. Quoi. Voilà.
C'est pour ça la joie, vous avez votre sac.
Ah oui, il y a toutes les affaires.
La joie des cintres qui sont.
Voilà,
là.
Les cintres, ouais. Ouais, la polaire, les chaussures de sécurité, la doudoune. Voilà. Voilà. Depuis janvier 98 que je suis là. Eh oui. Voilà. On savait que ça devait arriver un jour.
Et est-ce que vous êtes allé dire au revoir à votre machine?
Ouais, j'ai fait le tour, comme ça, une dernière fois, quoi. Ah ouais, comme on passe toutes ces années ici, une vingtaine d'années, voilà, quoi.
Je vous laisse dire au revoir aux copains, quand même, parce qu'ils attendent.
Ah bah oui.
Ouais, je prends le numéro.
Ah ouais, tu vas me prendre en photo après, s'il te plaît, avec mon appareil.
Devant l'usine?
Bah oui, un petit souvenir. Alors, voilà, tac. Voilà.
Avec la façade, avec le panneau, l'affiche,
ouais,
et tout
voilà.
Ça. Moi, je recule un peu, alors. Voilà. J'en fais plusieurs. C'est impressionnant, là, on prend la photo. Non à la délocalisation de notre production. Et il pose devant moi, tout raide.
Attention à la voiture.
Ouais. Ah, c'est une collègue qui part. Bon, j'en ai fait une série, là. Dis-moi si
merci.
C'est bien. Dites-moi si ça va.
Impeccable.
Bon, bah alors ça va, j'ai participé au souvenir de famille.
De toute façon, on aura des occasions avec l'avocat.
Merci, bonne chance, hein, bon courage.
Merci.
Il y aura des réunions, tout ça avec l'avocat.
Ah oui, pour les dossiers, là.
Pour les dossiers,
ouais. Bonjour.
Tu vas bien?
Bonjour,
ça va bien?
Ça va?
Premier contact, tu l'as eu avec moi.
Ouais.
À la manif, ouais.
Exactement.
On a fait la manif et on parlait en même temps. Ah, voilà. Je te jure.
C'était quoi les slogans déjà?
On lâche rien.
On lâche rien.
On lâche rien. Bah, ça fait quoi? 12 septembre, première manifestation.
Contre les ordonnances du travail.
Ouais. Et nous, c'était contre la délocalisation de notre usine en Pologne. Eh oui, effectivement, on a fait du chemin.
Bonjour. France Inter.
Oui. On va fermer notre usine. Est-ce qu'on va se battre?
Oui. J'entends les slogans.
Oui.
Et je vois surtout votre t-shirt.
Oui.
Non au licenciement boursier.
Oui. On est une usine qui s'appelle Semperit sur Argenteuil. On nous a déposé un plan pour une délocalisation en Pologne. Donc voilà, on est en combat, on veut le maintien de nos emplois.
Il y a combien d'emplois qui sont
concernés? Il y a 64 emplois qui sont concernés. Donc voilà, ils veulent tout centraliser en Pologne et nous licencier carrément.
Retrait! Retrait de la loi Macron! Retrait!
On était la dernière usine de bande transporteuse en France. On a l'habitude de dire on était le dernier, comme dans Astérix et Obélix, le dernier village gaulois. Eh ben, le dernier village gaulois, ils veulent l'avoir, moi ça ne sera pas faire.
Merci beaucoup, non, bon courage.
Ben, merci.
Comme un bruit qui court.
Effectivement, on a fait du chemin.
On a fait du chemin, les ordonnances sont passées en force.
Ah oui. En tout cas, on est digne dans le combat, on est resté digne dans le combat.
C'est cela.
Plaisir. Bonjour.
Et bonne continuation, les gars.
Ah ouais, là, si on se sépare, là.
Non, on se sépare, ouais. Équipe 1, elle est venue le matin. Ils avaient rendez-vous à 13h avec le cabinet de remplacement et la direction. Et en même temps, la direction leur a dit c'est plus la peine de revenir. Ils allaient envoyer les lettres de licenciement dans la semaine.
qu'aujourd'hui ils rentraient chez eux, qu'ils restaient chez eux. Voilà. C'est un jour triste aujourd'hui.
Il y en a deux qui vont.
Salut Sandrine. Ça va ?
Et toi ?
Ah, celui-là qui vient de partir, je pense qu'il a 28 ans de maison. Il y en a, ils ont 30. C'est pas évident. Hein. Ah oui.
Vous avez bossé combien de temps ici ?
19 ans. C'est mon premier travail.
Ouais. 14h30.
À 21 ans, j'ai commencé. Demain, on vient plus. Ça y est. On a pris nos affaires, c'est terminé.
Ah oui, dans les casiers.
Voilà, on a rendu les clés même. On n'a même plus les clés. Voilà, c'est fini.
Bon, on n'est pas tout seul, hein. Parce que pendant que nous, on nous a annoncé la fermeture, t'allumais la télé, il y en avait plein. C'était qui ? C'était Nokia, PSA. Tu vois même ce style
SFR.
On virait plus de 1000 personnes. SFR.
5000 personnes, SFR.
SFR. SFR. Moi, ouais. J'ai des amis qui travaillent dans Hôtel Formule 1, qui étaient à l'accueil. Ils ont tous aussi été licenciés.
Couvert, ouais. C'est ça, ouais.
Tu vois, ouais. C'est, on dirait que dès qu'il est passé, le nouveau président, je sais pas, il y a eu un appel d'air, tout le monde ferme. Tout le monde ferme.
C'est sûr, c'est pour l'argent, mais bon, voilà. C'est sûr.
Parce que l'usine, elle tournait, ouais, il y avait des carnets de commandes.
Ah oui,
le groupe est bénéficiaire, les actionnaires touchent des dividendes.
Mais bon, pas assez pour eux, ça doit être.
Ils en ont fait de l'argent. Hein. Ouais. Parce que chaque année, c'était quand l'année dernière, ils ont fait entre 15 et 20 millions. C'est quand même un beau chiffre.
Et vous, ils vous proposent combien sans indiscrétion ?
C'est entre 20 et 50 000 euros. Mmh. Ça dépend de l'ancienneté.
Le maximum, c'est 50 000 euros.
Salut, il vous dit au revoir là. Attendez, ouais. Il est en train de partir.
Ah, Dassa.
Dassa. Voilà, maintenant c'est chacun de son côté.
Ouais, maintenant c'est chacun de son côté. Ouais. Hein, ouais, c'est ça.
Il faut mener sa barque. Après, faut se débrouiller quoi.
Daniel, tu vas bien ?
Bonjour.
Bon,
allez, salut.
Tu rentres ? Ouais. Ok, vas-y. Salut.
Ouais, je vais y aller. Voilà.
L'usine à la roulée. L'usine à couler. Le bateau est en train de rouler. Le bateau roule.
15 millions d'euros de dividendes en 2016, 88 licenciements en 2017. Vive la France. Non au licenciement boursier. Semperit Trans, member of the Semperit Group. Bienvenue, welcome, willkommen. Et on rentre dans le hall. Et qui est là pour nous accueillir, comme à chaque fois ? C'est Omar, le délégué syndical. Ah, Gib, ça va Omar ?
Ça va bien.
Ça va et vous ?
Ouais,
bonjour.
Monsieur.
Ça va bien ?
Bonjour.
Et j'entends du bruit dans cette usine encore.
Ouais.
Mais c'est pas les machines.
Non, ça y est, les machines, ça y est, c'est consigné. Il n'y a plus de machines qui tournent.
C'est juste la ventilation.
La ventilation.
Avec toujours ces pistons là qui font pchit pchit.
Ouais. Mais c'est un bruit triste. Ah, c'est triste là. Là, il y a une tristesse qui s'est installée. Ça y est, la page elle est tournée.
Elles sont sorties quand les dernières pièces ?
Ce matin. Il y a une image sur le Facebook d'un collègue qui l'a mis. Il a mis, voilà la dernière bande à livrer. Elle était sur le camion.
Et maintenant, tout ce qui reste, là, ça va être désossé, démonté ?
Je sais pas. On s'occupe pas de ça maintenant.
Ouais. Vous faites partie des pertes et profits pour la direction.
Ouais. C'est ça, ouais. Très, très mal. Puis il y a une vie, quand même, qui est passée par là.
Combien d'années, vous, Omar ?
18 ans.
Et vous, Abdelkrim ?
17 ans et demi.
C'est même pas le boulot lui-même. C'est la fraternité qui était là. Mais on a tissé des liens ici avec des gens. Voilà. Plus de 100. On n'a pas 20 ans. La moyenne d'âge, elle est de 50-55 ans ici. Comment il va trouver du boulot, même s'il fait des formations ? Le temps qu'il fasse la formation, il finit. On va lui dire, monsieur, prépare le dossier pour ta retraite. N'est-ce pas ? Voilà, c'est ça.
Malheureusement, c'est la fin. Ils nous ont lâché. Mais c'est un gâchis. Parce que c'est vrai, il y a des boîtes qui ferment. Malheureusement, ils n'ont pas de boulot. Ça arrive, hein. Ils se cassent la gueule. Mais là, c'est pas le cas. Les Autrichiens, ils préfèrent travailler en Pologne, en Chine, en Inde. Pourquoi ? Parce qu'une paye d'un ouvrier simple ici, en Chine, ça fait 4-5 ouvriers, et en Pologne, ça fait 3 personnes. C'est pour ça. Moi, je me rappelle comme aujourd'hui, l'Autrichien, le grand PDG, l'Autrichien, M. Zenner, une fois, on était en pleine réunion, nous a dit, la France, vous travaillez bien. Votre boulot, il est nickel, rien à dire, mais vous êtes cher. Je me rappelle comme aujourd'hui. Il n'y a pas que nous. Hein. Apparemment, dans le Val d'Oise, il y a 9 PSE en ce moment-là. On voit où comme ça, là ? Regarde, les gens, ils pleurent et tout. C'est grave.
Dans les bras, là, entre ceux qui ont fini la réunion et ceux qui vont.
Ben oui. Moi, le dernier des derniers, j'ai 18 ans. Eux, 20 ans. C'est normal. Ben oui. Tu vois, c'est malheureux.
C'est la bise, on se prend dans les bras et puis on se lâche pas, quoi, là.
Oui, c'est malheureux.
Tu passes plus du temps ici que chez toi.
Bon, allez, merci à tous. Franchement, content d'avoir passé un moment de ma vie avec vous. Et prenez tout sur nous.
Merci à vous. Allez,
positif,
positif.
Ça, c'est Cyril.
Regarde le sourire.
La tristesse.
Et oui, c'est les émotions.
Il faut savoir rebondir après. Pour un certain temps.
C'est impressionnant de le voir avec les larmes aux yeux, là, comme ça. C'est un grand gaillard. Et...
La sensibilité n'est pas égale au physique.
À la taille, au poids.
Et hein, voilà.
On le voit comme ça, grand gaillard, fermé sur lui-même, mais en fin de compte, ça l'a touché. Et c'est pas le seul, nous aussi. Nous, on pleure pas. Lui, c'est les larmes. Il va partir, il va quitter sa région. Et vous savez, c'est toute une vie là, qui parle pour lui. Il tourne une page, mais énorme la page. Il va quitter Argenteuil, il va aller du côté de Saint-Chamond.
Ouvrier jetable. Voilà, malheureusement, ça devient ouvrier jetable.
Bon, messieurs,
restez au courant.
C'est rien, on s'appelle, hein. Zbigo, hein.
On ferme à tout va. On m'a jeté à la porte, victime de l'argent roi. Que le diable les emporte.
Il est 5h, le jour se lève, c'était pas un mauvais rêve. Et ouais, c'est fini pour de bon, je peux rester à la maison. Les portes de l'usine bientôt vont se refermer. Le rideau tombe et le spectacle est terminé. On voulait négocier, on nous a chanté la messe. On a perdu notre dignité sous la matraque des CRS. On va pointer en cadence, la faute a pas de chance. Paraît qu'il n'y a plus de boulot, faut voir la misère au boulot. Tout le monde dehors, circuler, y'a rien à voir. Personne pleure sur notre sort, on peut sortir les mouchoirs. Qui va payer mon loyer? Mon petit cœur va exploser quand mon gosse va me demander: papa, qu'est-ce qu'on va bouffer? On s'immole au Pôle emploi pour passer aux 20h. Il licencie à tour de bras, on part avec les honneurs. Le gouvernement s'agite, lève le poing, crie au scandale. Qu'est-ce qu'ils peuvent pour nous, honnêtement, que dalle?
On ferme à tout va, on m'a jeté à la porte, victime de l'argent roi.
C'est bien, l'État demande des exigences et demande des efforts pour le contribuable. On nous a demandé l'effort de 5 euros au niveau des APL. Tout le monde veut mettre la main à la porte. C'est pas mon intérêt ou l'intérêt de n'importe qui de n'importe quel ouvrier de dire: bon, non, si la France elle coule, c'est bon. Non. L'important c'est quoi? C'est que le pays va bien, qu'il y ait moins en moins de chômage. Ça, tout le monde se bat, tout le monde est d'accord. Mais le souci c'est que quand vous voyez des patrons comme ça, ils font des bénéfices. Ils ont des bénéfices. Et là, par contre, il n'y a personne, ni le président, ni le secrétaire d'État, ni aucun député, ni le maire qui vient et qui dit: mais attendez, messieurs, vous faites du bénéfice, pourquoi vous la fermez? Parce que vous voulez faire en plus.
Je vais rejoindre un petit peu ce qu'il disait. Ce sont les patrons qui se font du fric et ainsi de suite. J'en veux pas aux ministres, parce qu'ils n'ont pas que Argenteuil. Le maire d'Argenteuil, républicain, il n'est jamais venu. Même pour le soutenir, il n'est jamais venu. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. C'est devenu un promoteur immobilier. Il vend ses terrains.
Parce qu'il lorgne sur ses terrains.
Exactement.
Tout ici, ça va devenir des logements, des hôtels, des magasins, dans le Grand Paris.
Et c'est pour le Grand Paris. C'était prévu depuis des années. Ils ont décroché les JO. Il y a l'argent qui tombe là. Ouais. Et nous, Otis à côté, là, janvier, c'est fini. Hein.
Les ouvriers, vous dégagez maintenant.
Ça y est, c'est fini.
Parce qu'ici, c'était une banlieue ouvrière pendant des décennies et des décennies.
Mais ici, avant, bien sûr, Kléber et tout, ils fabriquaient les rails pour le métro parisien. Ah, bah regardez.
Et on voit encore les traces de rails qui sont prises dans le béton.
Ouais. Exactement. Et l'évolution.
Et c'est toute une page de l'histoire ouvrière de la banlieue parisienne qui est en train de se finir définitivement.
Il y avait Dassault qui va partir. Nous, c'est un gâchis. C'est un gâchis et c'est volontaire, c'est pas normal. C'est pas normal.
Bon, je vais à la réunion.
Ouais, moi aussi, je vais pas.
Allez-y.
Vous êtes là ou faut...
Moi, j'ai fini.
Fini ?
Je reviens demain, en tant que délégué, non pas les derniers. Donc,
vous qui mettez la clé sous la porte.
Malheureusement, oui, on nous oblige. J'espère à la prochaine. J'étais ravi et heureux de t'avoir croisé.
Merci. Bon. Je vais par là ou par là ?
Vous montez par là, à gauche et en face.
Merci.
Viens, au revoir.
Je répète, la notification de licenciement, on vous propose l'adhésion ou pas au congé de reclassement. Vous réfléchissez et pendant ce délai de réflexion de 8 jours, vous devez répondre oui ou non. Ok ? Après, à la fin de ces 8 jours de délai de réflexion, vous avez le démarrage. du congé reclassement. Le congé reclassement démarre par ce qu'on appelle un entretien d'évaluation.
Voilà ce qui va être l'ordinaire maintenant des ex-Semperit, plan de sauvegarde de l'emploi, cabinet de reclassement, formation, paperasse, dossier pour 12 mois avant le solde de tout compte. Alors bon vent à eux, bon courage à tous les ex-Semperit.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court, hashtag comme un bruit. On se retrouve samedi prochain à 16h.